France Inter, le 18-20.
Est-ce la fin de la série noire ? Après un été particulièrement meurtrier sur les routes, septembre a donc enregistré une forte baisse du nombre de tués, moins 17,4% par rapport au même mois de l'an dernier, 262 morts, soit 55 de moins qu'en septembre 2014. Toujours trop, me direz-vous, évidemment, mais après tant de mois de hausse, c'est tout de même une bonne nouvelle. Alors comment l'expliquer ? Est-ce un simple et heureux hasard ? Le début, au contraire, d'un réel changement de comportement des automobilistes ? Ou est-ce bêtement la peur du gendarme avec l'annonce de toutes ces nouvelles mesures répressives ? On pose la question ce soir et j'attends bien sûr toutes les vôtres, vos réactions également dès maintenant au 01 45 24 7000.
Michaël Thébault, le téléphone sonne.
Et tout de suite, une première question standard. Michel nous appelle de Charente-Maritime. Bonsoir, soyez le bienvenu. Quelle est votre question ou réaction ?
Bonsoir messieurs, voilà. La question suivante. Ce chiffre-là, qui est un chiffre absolu, je suis toujours un petit peu étonné qu'il ne soit pas ramené au nombre d'automobilistes qui ont roulé, du nombre de kilomètres parcourus. Donc ça, c'est quelque chose qui m'interroge. En plus, ce chiffre, il est comparé au mois dernier. Le mois dernier, c'était les vacances, donc
c'est sur
beaucoup
un
moins de trajets. Hein, donc ça, c'est ma première observation. J'essaye d'être bref. Et par ailleurs, la seconde chose, est-ce qu'on n'y arrive pas à un chiffre, si vous voulez, qui soit au-delà duquel on ne puisse pas aller ? Hein, tout simplement parce que dans une vie de conducteur, on a des moments d'inattention, on a des moments où plus jeune, on est un petit peu inconscient. On ne pourra jamais lutter contre ça. Et du coup, compte tenu du nombre de véhicules qui circulent et du nombre de kilomètres faits, est-ce qu'on est capable de descendre en dessous de ce chiffre ? Et surtout, ne pas le comparer à des pays voisins européens.
Merci de ces questions, Michel. Et pour vous répondre, autour de cette table, Jean-Yves Salin, délégué général de l'association Prévention Routière, et Éric de Caumont, avocat spécialiste du droit des automobilistes. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Alors, qui veut répondre à cette première question de Michel ? D'abord, sur la valeur des chiffres.
Oui, alors ce que disait Michel, c'est qu'on compare en réalité par rapport à l'année précédente. Hein, donc on a une forte baisse par rapport au mois de septembre de l'année précédente. Ce que nous disait Michel aussi, c'est qu'effectivement, on doit regarder la circulation. Et la circulation, depuis quelques mois, réaugmente à nouveau en France, légèrement, mais elle réaugmente. Et pour ce qui est de sa remarque, je crois qu'il suffit de circuler pour constater qu'on commet énormément d'infractions encore aujourd'hui et que donc il y a une marge de progrès encore très importante, même si c'est vrai, on a baissé de plus de moitié en 10 ans le nombre de tués en France, comme d'ailleurs, il faut le dire aussi, comme dans la plupart des pays européens.
Alors Jean-Yves Salin, vous dites marge de progrès, ça on va y revenir évidemment tout au long de l'émission, mais il y avait un autre aspect très intéressant de la question de Michel, c'était ce chiffre plancher. Qu'en dites-vous Éric de Caumont ?
Aucun pays au monde, y compris les plus vertueux, y compris ceux qui ont des années d'avance sur nous en matière de sécurité routière, en matière de résultats, je pense notamment à la Grande-Bretagne, n'a jamais été en mesure d'atteindre, hélas, le zéro mort sur les routes. Donc effectivement, il y a forcément un plancher. Le fait de conduire une voiture, de se déplacer dans un engin à 80, 100, 120, 130 km/h d'une tonne ou de deux tonnes, c'est forcément un risque potentiel, ne serait-ce que par rapport à un défaut de fonctionnement du véhicule. Ce sera toujours plus dangereux que de rester à écouter la radio dans son fauteuil. Moyennant quoi ? Il est clair que la question, c'est de savoir quel est le plancher qui est atteignable et quels sont les moyens que l'on peut se donner pour ça. Et de ce côté-là, je vous parlais tout de suite de la Grande-Bretagne. Je pense qu'on devrait regarder un petit peu plus souvent. On va se replacer dans un contexte. Vous savez qu'il y a eu un comité interministériel sur la sécurité routière qui s'est tenu il y a quelques jours, curieusement, juste avant l'annonce des bons chiffres, après plusieurs mois de mauvais chiffres, comme si justement ça tombait très bien pour annoncer un peu plus de répression qui aurait été insupportable.
Donc curieusement, voilà, c'est organisé.
Curieusement,
voilà, c'est
curieusement ça s'est joué à 48 heures et là, boum, on nous en met une bonne petite couche supplémentaire de répression. Et là, trois jours après, on apprend qu'on a eu le meilleur mois de septembre depuis 1948, vous voyez. Donc,
et
je me pose la question de la coïncidence, tout simplement.
Votre conclusion à vous, Jean-Yves Salin ?
Non, je crois que depuis maintenant 18 mois, on a une hausse du nombre de tués globalement en France, à nouveau, alors qu'on avait eu 10 ans de baisse. Et c'est ce qui a incité les pouvoirs publics à réagir. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la baisse du mois de septembre n'a rien à voir avec les annonces du mois d'octobre, évidemment, puisqu'elles ont lieu début octobre. Ce qu'on peut espérer, c'est que les annonces du mois d'octobre, qui effectivement sont des annonces plutôt de renforcement des contrôles et des sanctions,
et on va y venir,
va inciter les conducteurs qui n'en avaient pas envie avant à respecter davantage.
Alors, et ça, on va le voir très clairement. On repasse au standard. On nous attend, Alain de Saint-Étienne. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Alors, j'ai pas entendu la première question. Cela dit, moi, j'avais une question. C'était par rapport à la veille. C'est pourquoi il y a-t-il aussi peu, je dirais, de contrôle liés à l'école et à la et aux médicaments.
Ouais.
On va me dire qu'il y en a, mais déjà l'alcool, on est contrôlé tous les 36 du mois, mais les médicaments, et la drogue, il y a énormément d'affaires liées à ça, les peines sont ridicules.
Alors, voilà. Alain, je suis navré, mais vous devez nous appeler avec un portable, on vous entend assez mal. Si je résume, l'essentiel, beaucoup de contrôle sur l'alcool.
Non, pas assez.
Beaucoup de contrôle sur l'alcool, pas assez sur les drogues et les médicaments, nous dit Alain.
Mm-hmm. Ouais.
Alors, effectivement, votre auditeur a raison. Hein, il y a 10 millions, un peu plus de 10 millions de contrôles sur l'alcool chaque année. Il y en a à peu près 100 000 sur les drogues. Il n'y a pas de contrôle, évidemment, sur les médicaments. Ce qu'il faut dire quand même... c'est que d'une part, le gouvernement a expérimenté depuis maintenant quelques mois ce qu'on appelle un double contrôle salivaire pour détecter les drogues. Parce qu'avant, il fallait un premier test salivaire et ensuite, en cas de positivité, on allait dans un hôpital pour faire une prise de sang. Ce qui rendait le nombre de contrôles tout à fait faible. Et d'ici quelques mois, on aura ce double test salivaire qui permettra d'augmenter le nombre de contrôles sur les drogues. Sur les médicaments, il n'y a pas de contrôle. En revanche, il y a des études qui montrent que les médicaments sont présents dans 2% des accidents mortels. C'est à ramener quand même à l'alcool qui est en cause dans 30% des accidents mortels. Donc on voit bien que c'est quand même pas le même enjeu.
Vous parliez de marge de progrès. Là, je me tourne vers vous, Éric de Caumont. Qui dit marge de progrès dit nécessaire contrôle accru aussi.
Pas forcément. Justement,
c'est quoi
non, mais justement, le drame, si vous voulez, des pouvoirs publics. On a un gouvernement socialiste, je vous dis tout de suite, ce que je vais vous dire est applicable à tout gouvernement, quel qu'il soit, depuis 40 ans, ça n'a jamais rien changé. C'est qu'on s'enferme dans un présupposé. Si vous voulez, regardez ce qu'on nous dit. On nous dit depuis 18 mois, à part septembre qui a été très bon, on a de mauvais chiffres. Donc, j'allais dire, tout scientifique, normalement constitué, tout esprit scientifique dirait, bon, ce que je fais depuis 18 mois ne donne pas les fruits escomptés. Donc, je fais fausse route, je vais essayer d'autres voies, d'autres recherches. C'est l'esprit scientifique par définition.
C'est ce qui s'est passé au dernier conseil interministériel. Ils se sont dit,
on va mettre 500 radars de plus.
On va accroître les contrôles.
On est bien d'accord. Donc, ça veut dire justement qu'un scientifique, il essaye quelque chose, ça ne marche pas, il essaye autre chose. Un politique, il essaye quelque chose, ça ne marche pas, il re-essaye et il cogne plus fort sur ce qui n'a pas marché.
Il va plus loin dans sa démarche.
Il va plus loin dans une démarche inefficace. C'est quand même du génie. Génie à l'état pur.
Peut-être que le curseur est mauvais à 5, peut-être qu'il devient excellent à 10.
Attendez, moi je vais vous dire quelque chose. Si on parle de curseur, c'est puisqu'on parle parmi les inventions là, qui nous menacent des drones. Je veux dire, on va être contrôlé maintenant par des drones. Alors effectivement, si on prévoit que les drones vont pouvoir tirer sur les voitures dès qu'elles sont en traction, peut-être qu'effectivement...
Non, mais attendez,
il y a aussi des pays dans lesquels on coupe la main des voleurs.
Hein. De traquer les conduites à risque.
Alors les conduites à risque, justement... Les conduites à risque, il y a des pays qui les traquent et qui sont en avance sur nous. Ce sont par exemple les Anglais. J'en parlais tout à l'heure. Vous savez ce qu'ils font, les Anglais? Ils ne rajoutent pas 500 radars de plus. Ils sont en train de les enlever, les radars automatiques. Parce qu'ils sont arrivés, justement parce qu'eux, ils ont un esprit scientifique et que l'argent ne les intéresse pas. Ce n'est pas pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de Bercy, la politique de sécurité routière anglaise.
Et ce n'est pas que ça.
Non, mais en France, c'est beaucoup ça. Et c'est majoritairement ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a si peu de contrôle concernant les drogues ou l'alcool par rapport au contrôle de vitesse, puisque vous avez énormément plus de contrôle de vitesse.
On est forcément d'accord avec vous. De fait, si on augmente le nombre de radars, on augmente le nombre de gens flashés et donc, in fine, les recettes de l'État.
Bien entendu, qui vont très bien, je vous remercie.
Il n'empêche que sous couvert de sécurité, on fait de l'argent, d'accord.
Oui.
Mais vous êtes le premier à ralentir quand vous voyez un radar, non?
Non, parce que
on
a fait un choix. Mais attendez, je vais vous dire pourquoi je peux continuer. Et comme pourquoi peuvent continuer tous les Français qui ont envie de continuer à rouler vite? Parce que les pouvoirs publics ont fait le choix depuis très longtemps de ne prendre que des photos de dos. 80% des radars vitesse, photos de dos. Radar feu rouge, 100% de dos. D'accord? Il n'y a plus ou quasiment pas de photos de face de prise. Ça veut dire qu'on ne peut plus identifier les conducteurs. On a renoncé à identifier les conducteurs et on livre sur un plateau à toute personne qui connaît ses droits le moyen de ne jamais perdre de points, de ne jamais avoir de suspension de permis de conduire avec les radars automatiques. Par contre, à chaque fois, Bercy encaisse. Parce qu'il y a le propriétaire payeur, il y a la redevabilité pécuniaire. C'est bien la preuve que ce qui motive les pouvoirs publics, c'est pas d'interpeller, de verbaliser, de mettre hors d'état de circuler des conducteurs dangereux, mais c'est juste de ramener de l'argent dans les caisses de l'État.
Énormément d'auditeurs qui ne sont absolument pas d'accord avec vous, mais d'abord, on va écouter Jean-Yves Salin.
Oui, non, c'est assez caricatural comme description.
C'est la vérité.
Je crois qu'au contraire... Avant ces mesures qui ont été annoncées début octobre, il y avait un certain nombre de problèmes qui faisaient que le système ne fonctionnait plus, notamment les véhicules d'entreprise. Hein, ça représente 15% des véhicules en France, sans doute plus des kilomètres parcourus. Et on avait cette possibilité, finalement, qu'il y ait une contravention, mais pas de retrait de points. Donc le gouvernement a voulu annoncer un certain nombre de choses pour remédier à cela. Le nombre de contrôles a fortement augmenté en France et on voit que ça a conduit à une baisse des vitesses moyennes en 10 ans, en gros 11 km/h sur l'ensemble des réseaux, et que l'on a eu parallèlement la même baisse du nombre de tués. Donc ce que l'on sait depuis quelques mois, c'est que les vitesses ont à nouveau augmenté, ce qui explique la hausse du nombre de tués depuis 18 mois.
On va repasser au standard. Nous attend Sylvain du Jura. Bonsoir, quelle est votre question, Sylvain ?
Oui, bonsoir et merci de prendre mon appel. Je voulais savoir si on pouvait imaginer des mesures un peu plus strictes quant au retrait de permis, dans la mesure où il y a la possibilité d'acheter ou de louer un véhicule sans permis. Mmh. Et par ailleurs, il y a aussi des stages de récupération de points. Mmh. Ça donne la possibilité à des gens, même dangereux sur la route, qui ont commis une infraction grave, de renouveler éventuellement ces infractions.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous aimeriez comme dispositif ?
Ben, un dispositif un petit peu plus sévère. Quant au fou de la route, voilà, on va dire ça comme ça.
Alors Jean-Yves Salin vous répond.
Alors c'est vrai que, ce qu'il faut dire, hein, c'est qu'en matière d'alcool notamment, lorsqu'on est intercepté pour un délit, on a la possibilité de se voir retirer son permis de conduire. Bon, on a effectivement la possibilité de suivre un stage permis à points. Et madame a raison. Pendant un certain temps, un certain nombre de personnes qui s'étaient vues retirer leur permis pour conduite sous l'emprise d'alcool louaient des voitures sans permis. Donc le juge aujourd'hui a la possibilité d'interdire la conduite, oui, y compris d'une voiture sans permis.
Mais je pense que Sylvain voulait aussi peut-être évoquer l'idée d'un retrait à vie, un retrait définitif.
C'est impossible juridiquement.
Écoutez, je crois qu'il y a des comportements qui sont très dangereux. Il peut y avoir des retraits de permis pendant une durée longue. Il y a aussi des possibilités. Nous, c'est ce qu'on demande depuis des années, c'est qu'on impose l'installation d'éthylotests anti-démarrage qui bloquent le démarrage du véhicule si la personne a bu. Donc il y a des systèmes qui existent. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, un permis de conduire pour beaucoup de personnes, c'est quand même absolument indispensable. Donc il faut être sanctionné. Mais à vie, ça me semble très sérieux.
Il y a déjà 10 ans, hein, le maximum légal possible pour une suppression de permis, c'est 10 ans. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une sanction de 10 ans d'interdiction de conduire.
C'est très rare.
C'est très rarement prononcé, mais ça devrait rassurer cette auditrice qui trouve qu'il n'y a pas encore assez de répression sur les routes. On peut se voir privé pendant 10 ans de son permis lorsqu'on est vraiment un conducteur dangereux. 10 ans, c'est long.
Bah, on a bien compris, Éric Ducommon, que vous n'êtes pas pour une répression accrue sur les routes. Y a quand même des gens qui ont un comportement à risque depuis le premier jour. Depuis le premier jour, ils ont eu leur permis.
Mais bien entendu, et ce qui est dommage, mais c'est qu'il n'y a personne pour les verbaliser. Justement, qu'est-ce qu'on fait contre ces gens-là ? En 2003, quand on a mis les radars automatiques sur les routes, quand on a commencé à mettre la France en coupe réglée avec les radars automatiques un peu partout, il y a eu une idée qui a été lancée et qui a fait, écoutez-moi bien, l'unanimité, sauf des pouvoirs publics bien entendu, consistant à créer une vraie police de la route. Les anges de la route, comme on disait quand j'étais tout jeune. Des policiers dédiés uniquement à cela et qui ne feraient que ça, de circuler sur les routes et de traquer les comportements dangereux. Mmh. Tout simplement. Parce que ce qui est dangereux, c'est pas de passer à 53 km/h devant un radar automatique. Ce qui est dangereux, c'est de changer de direction, d'avoir un comportement complètement erratique en circulation, d'être tout à fait...
C'est ce que nous promet de faire le ministre via ses drones.
Avec ses drones. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, ces drones ? Ces drones, ils vont prendre des photos ? Des photos de l'arrière, avec la plaque, et on va encore être à l'abri, bien entendu.
Le drone peut filmer en temps réel, transmettre ses images en temps réel.
À qui ?
Ah, j'imagine un peloton de gendarmerie.
Qui va venir faire les policiers, les anges de la route? Eh bien, qui viennent directement le faire. En d'autres termes, pourquoi se servir de drones alors que moi, j'ai vu rarement dans ma carrière d'automobiliste, mais des gendarmes ou des policiers circulant notamment sur des motos et qui arrêtaient des automobilistes pour les rappeler à l'ordre sur des règles essentielles comme le fait de serrer la droite sur autoroute au lieu de rouler à gauche.
Ce qu'on voit de plus en plus fréquemment.
Tout à fait. Mais on ne voit pas assez pour une raison très simple. Mais elle est évidente, elle est mathématique, elle est malheureusement financière. Un radar, ça rapporte un maximum, ça marche 24 heures sur 24, c'est jamais en panne, c'est pas syndiqué, c'est pas malade, ça fonctionne tout le temps. Un policier, ça doit dormir un petit peu de temps en temps, ça coûte beaucoup d'argent et c'est beaucoup moins rentable et beaucoup moins efficace. Voilà, tout est dit.
On repasse au standard où Gérard a une question plutôt technique à poser nos invités. Laquelle, Gérard ?
Oui, bonjour.
Bonsoir.
Je vous écoute. Alors, avant de vous poser ma question, sur la précédente, là, il faudrait peut-être dire quel est le nombre de personnes qui conduisent sans permis. Bon, maintenant, je vous pose ma question. Vous m'entendez ?
Oui, on vous entend, oui.
Voilà, non, parce que j'entends des bruits. Alors, je demande pourquoi, alors que les véhicules à l'heure actuelle, les véhicules neufs, sortent bourrés d'électronique, bourrés d'informatique, avec un GPS installé, pourquoi on ne couple pas le GPS avec le régulateur de vitesse ? Parce que le GPS sait, connaît la vitesse maximum sur la route sur laquelle vous vous trouvez.
Il y a des problèmes.
On va peut-être y venir. Jean-Yves Salin vous répond.
Oui, d'ailleurs, on en parle depuis longtemps. C'est ce qu'on appelle en France le LAVIA, c'est-à-dire effectivement de coupler ce que dit exactement votre auditeur, c'est-à-dire le GPS avec le limiteur de vitesse. Alors simplement, ça nécessite une cartographie tout à fait à jour, parce que à partir du moment où on fait confiance à ce système, il faut qu'il soit complètement fiable. Et on a en France 36 000 communes, ce qui ne facilite pas l'élaboration de ces cartes. Alors parfois, on peut coupler ce système à un système de caméra qui est placé sur le tableau de bord du véhicule et qui permet de filmer la route et donc de filmer les panneaux avec les limitations de vitesse. Donc ça, c'est l'avenir. Ça aide effectivement les conducteurs à respecter les limitations de vitesse parce que beaucoup nous disent de bonne foi, il y a beaucoup de changements de vitesse et parfois on ne sait plus trop où on en est. On peut parfois être sur l'autoroute, doubler un poids lourd, ne pas voir un changement de limitation de vitesse. Donc ces systèmes sont effectivement l'avenir.
Justement, et pour sortir de l'aspect répressif, quel est le rôle des constructeurs, et là je parle de prévention, d'aide à la conduite, que ce soit effectivement aide au freinage, etc. Les constructeurs ont un vrai rôle à jouer.
Ils ont un vrai rôle, et c'est d'ailleurs tout ce que l'on voit à l'heure actuelle en matière d'évolution, la voiture de l'avenir. On va parler de voitures connectées, mais il y a bientôt parler de voitures autonomes aussi, carrément.
Bon, pilotage automatique.
Voilà, il y a tout un tas de choses. Bon, sans en arriver jusque-là, et éventuellement à l'autonomie complète des véhicules, voire pire, à la prise de contrôle des véhicules par des satellites, voire des forces de police, ce à quoi, bien sûr, vous l'avez compris, je suis opposé, il y a effectivement, de la part des constructeurs, d'énormes progrès. Et ça, c'est une piste que l'on n'explore pas assez en matière de sécurité.
Je crois que tous les constructeurs l'explorent,
oui,
puisque c'est un marché.
Mais les pouvoirs publics n'y aident pas. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis motard. On développe quelque chose de passionnant pour les motards depuis quelques années, c'est l'airbag. Ça a l'air simple pour vous, parce que l'airbag dans les voitures, on l'a depuis des années.
Moto, de fait.
Mais effectivement, on ne l'avait pas sur les motos. Maintenant, on l'a sur les motos, on peut même l'avoir d'ailleurs sur des vélos. Maintenant, on a des gilets, des vestes qui sont en train de sortir et qui sont effectivement équipés d'un airbag. Ça va sauver des vies humaines. Bon, est-ce que vous croyez que les pouvoirs publics font quelque chose pour promouvoir ces produits qui vont, dans un premier temps, coûter très cher? On parle de 600 à 1800 euros. C'est pas à la portée de toutes les bourses, mais ça peut sauver des dizaines et des dizaines de vies de motards. Et Dieu sait si les motards payent un lourd tribut, on le sait, en ce qui concerne la mortalité routière.
Je vous coupe un instant, mais sur les motards précisément,
oui.
Isabelle a un commentaire à nous faire. On vous écoute, soyez la bienvenue, Isabelle.
Le motard est prêt.
Oui, bonjour.
Bonsoir.
Je suis professionnelle de la route, on peut le dire. Je fais 70 000 km par an et depuis 20 ans. Et je suis motard.
Ouais.
Ce que j'ai constaté, c'est que, à l'impression qu'un motard, quand il a son permis, quand il donne son permis, c'est comme s'il avait un droit de non-respect du code de la route qu'on peut demander à un véhicule normal. Exemple, je le vois moult fois dans la journée, un motard va doubler sans respecter les distances de sécurité, va provoquer ce qu'ils ont la grande... c'est de rester sur la même voie et demander à inciter à ce que le véhicule se mette sur la droite pour ne pas franchir une ligne blanche. Et vous avez 90 véhicules qui vont se mettre en infraction pour laisser un motard faire une infraction.
Alors,
c'est un état d'esprit incroyable.
On va vous répondre, mais j'ai juste une question à vous poser. Vous oui. n'êtes pas en train de téléphoner et de conduire ?
Non, je faisais tourner mon moteur, je suis arrêtée pour relancer, pour recharger mon...
Ah, très bien, très bien. Non, parce que moi, j'avais comme un écho de conduite dans le casque.
Non, je vous promets,
alors, Isabelle...
À recharger, que je suis en contact avec vous depuis un quart d'heure.
Ce qui est au demeurant, je vous le rappelle à cette occasion, même après le dernier comité interministériel sur la sécurité routière, reste parfaitement autorisé de conduire en téléphonant.
Ça dépend comment. Bah,
oui, du moment que vous n'avez ni kit oreillette, ça c'est nouveau voilà. depuis le mois de juin dans les oreilles.
Le téléphone tout court.
Ni téléphone à la main, mais du moment que vous êtes avec un kit main libre sur la voiture, vous avez parfaitement le droit de téléphoner en conduisant. Je le rappelle à cette occasion.
Pour l'instant, pour répondre à Isabelle,
pour l'instant, vous avez raison, parce qu'on
sait pas. Ce quasi droit de non-respect du code de la route par les motards.
C'est intéressant qu'Isabelle témoigne, parce qu'elle est à la fois professionnelle de la route et motard. Et on a souvent un langage de sourd entre les motards et les autres usagers. Et c'est vrai que les motards font beaucoup plus attention que les autres usagers à ce qui se passe sur la route, parce qu'autrement, ils ne sont pas motards longtemps. Mais en même temps, ils commettent des infractions très importantes. Ils ne respectent pas beaucoup de règles du code de la route.
On,
et
on
c'est
le
une
voit
réalité,
tous
la
au quotidien,
vitesse.
Ouais.
Voilà, donc c'est un peu le débat de la sécurité routière. On reporte toujours sur les autres la faute, l'erreur. Et en réalité, chacun, en tant que piéton, cycliste, usager de voiture, de moto, nous faisons des erreurs au quotidien.
Mais le cahier des charges n'est pas forcément le même entre un deux roues et un quatre roues, même si le code de la route est censé s'appliquer de la même
pour
façon.
Tous.
On est d'accord, mais regardez, on va prendre un exemple. La remontée interfile que nous voyons tous les jours sur les boulevards périphériques des grandes villes, à Paris entre autres, et ben cette remontée interfile, alors qu'il est, elle donne lieu à un tir au pigeon avec les caméras, puisqu'on verbalise à tour de bras, elle est juste sur le point de devenir légale. Parce qu'effectivement, les pouvoirs publics sont en train de la prendre en considération, notamment sous l'influence de la Fédération française des motards en colère, qui effectivement rappelle que c'est une pratique qui, si elle est encadrée, est effectué de façon raisonnable, qui n'est pas un différentiel de 80 km/h entre une voiture à l'arrêt et, et une moto qui remonte entre deux files de voitures, bien sûr. Mais si elle est effectuée de façon raisonnable, est tout simplement naturelle et doit être encouragée. Les pouvoirs publics sont sur le point de l'expérimenter.
J'aime bien votre formule. Si elle est faite de façon raisonnable,
absolument.
Oui, mais ça vaut pour tous les comportements derrière un volant ou derrière un guidon.
On est d'accord, et je crois que c'est effectivement le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est que on dit si vous roulez à 50 km/h, si vous vous arrêtez bien à tel stop, si vous faites bien ceci, faites bien cela. Après ça, on s'en fiche
mais
de ce que
vous
faites.
Mais on sait que ça marche pas, et c'est le
on
même problème.
On s'en fiche de ce
depuis...
que vous faites. Mais non, parce que la vraie sécurité routière, c'est demander aux autres de respecter les autres usagers de la route et de partager
bien sûr,
la route.
Bien
voilà.
sûr, mais on
et
sait.
Et à partir de ce moment-là, vous avez
oui,
une
mais ça
sécurité
fait des
routière.
Des décennies que ce n'est pas le cas, particulièrement en France, excusez-moi.
Si,
mais
si.
Non,
regardez,
non.
Prenez un exemple.
Sinon, on n'aurait pas besoin d'autant de contrôle.
Eh ben, prenez un exemple amusant. Quelles sont les deux meilleures années en baisse de mortalité depuis 1973, quand on a eu les pics à 16 ou 18 000 morts et que depuis, on a commencé
quasiment
à redescendre.
18 000 morts.
18 000 morts, on est d'accord. Les deux meilleures années, les deux plus fortes baisses, eh bien, ce sont les années 2002-2003. Et vous savez ce que c'est, ces années-là ? Ben, c'est les deux dernières années avant qu'on mette le premier radar automatique sur le bord des routes. Et qu'est-ce qui s'était passé de fabuleux ?
Il s'était passé
quelque chose de formidable, c'est que le président de la République, Jacques Chirac, avait dit, lors de sa réélection en 2002 pour son quinquennat, après son septennat, il avait dit « J'ai trois grandes causes nationales qui vont diriger mon prochain mandat, mon quinquennat. » Et parmi ces trois-là, il y avait la sécurité routière. Et il a dit « On arrête de se comporter de façon irresponsable. Je siffle la fin de la récré et désormais, on va mobiliser les consciences. » Et on a 15 ou 13% de baisse de la mortalité sur ces deux années-là.
J'ai beaucoup plus de mal que vous à faire un lien de causalité.
Mais il ne faut pas prendre les gens indisciplinés qu'ils ne le sont. Vous savez, ils sont capables de réflexion.
Ce n'est pas très sérieux. Ce qui a changé le comportement des conducteurs, ce n'est pas que le président de la République dise que c'était une priorité, c'est qu'il annonce la mise en place des radars.
Bah oui,
et on sait que,
c'est juste
dans l'opinion, le fait de l'annonce de ces radars, et effectivement, il y a eu énormément de communication. Et les radars ensuite ont été efficaces. efficace pendant des années avant que un certain nombre de conducteurs essaient de contourner le système par les avertisseurs communautaires. Ce sera toujours contournable.
Puis on le
vous avez une vision, de la société.
Il y a eu un choix qui a été fait. On ne veut pas arrêter les gens, on ne veut pas les identifier, on ne veut pas les verbaliser. Ils auraient tort, effectivement.
Je n'arrive pas à comprendre tout à fait si vous souhaitez plus de contrôle ou pas assez. Depuis le début de l'émission, c'est pas très clair.
Le pouvoir public est une attitude cohérente. Ils nous disent, on met des radars pour réprimer des comportements dangereux. Et on décide qu'on ne prend pas de photos de face, mais des photos de dos, comme ça on ne pourra pas identifier, et les gens n'auront qu'à dire c'est pas moi, ils seront à l'abri de toute sanction. Je dis que les gouvernements successifs sont soit schizophrènes, soit ils sont très clairs, ils veulent faire de l'argent, donc effectivement ils prennent les plaques arrière, et là ils sont sûrs que ça marchera à chaque fois, notamment pour les motos qui n'ont pas de plaque à l'avant.
Et alors que pensez-vous de cette annonce de radars qui ne seront pas des radars,
des leurres,
qui justement, il n'y aura pas de contraventions
à
chaque fois.
Si, il y aura des radars de temps en temps dans des endroits qui pourront être équipés
alors
ou ne pas être équipés.
C'est une bonne idée.
Je trouve que c'est la caricature absolue de ce que le gouvernement n'est même pas capable. Quand il rajoute 500 radars et il rajoute des endroits où il pourrait y avoir des radars, ça prouve qu'il n'est même pas capable de réfléchir à autre chose que des radars. Je rappelle que la première cause de mortalité aujourd'hui en France, c'est l'alcool. C'est plus la vitesse. Mais réprimer l'alcool, ça coûte très cher en contrôle, ça rapporte pas grand-chose en procès-verbaux et en amende. Réprimer les radars, réprimer la vitesse, même les dépassements de 2 km/h, c'est 80% des petits excès de vitesse qui remplissent les caisses de l'État, c'est 800 millions par an qui rentrent dans les caisses de l'État de bénéfices.
Éric Decomont, on va repartir au standard. Nous attend Patrice. C'est beaucoup moins cher qu'un radar, mais ça peut fonctionner. Il y a des choses qu'on peut mettre sur la chaussée pour faire ralentir les voitures. C'est ce que vous voulez nous dire, Patrice. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Oui, je crois que parler de sécurité routière, ça nous interpelle sur de nombreux paramètres à revoir. Déjà, c'est qu'il y a un représentant de la défense des automobilistes sur France Info qui disait à juste titre, à mon avis, que la sécurité serait plus efficace si elle emportait un sentiment des automobilistes. Je crois que c'est vrai. On parle de répression, radar, pompe à fric. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il ne faut quand même pas oublier non plus que ça sauve des vies aussi. Hein. Ça, c'est très important. Je pense qu'on peut améliorer certaines choses. Exemple, je vais prendre plusieurs paramètres. La sécurité à l'entrée des villages, qui pose un réel problème. À l'instar de certains d'entre eux, pourquoi ne pas généraliser les ralentisseurs intelligents, je dis bien intelligents, ça ne suffit pas de faire sauter les voitures à 15 mètres de haut. Et avec des chicanes, ça peut se faire, ça se fait dans certains villages, pourquoi ne pas le généraliser? Il n'y aurait plus de radar, il n'y aurait plus de pompe à fric. Première chose. Je pense aussi que le radar fixe est moins intelligent qu'un radar mobile fait par les forces de l'ordre. Pourquoi? Parce qu'il y a un réel problème quand même des radars fixes, c'est que quand vous doublez une voiture qui roule à 75-80, le bon sens exige un bon coup d'accélérateur pour dégager rapidement la voie de gauche. Et si vous arrivez à 100-110, qui n'est pas énorme, sur quelques mètres devant un radar, vous êtes pris. Alors que vous êtes bien plus en train de conduire intelligemment, que de rouler à 95 pour doubler.
C'est vrai que ça peut arriver, mais j'aimerais qu'on s'arrête particulièrement sur, on appelait ça comment, les gendarmes couchés à une époque, les ralentisseurs, voilà. Jean-Yves Salin.
Oui, non, mais c'est tout à fait exact ce que dit Éric, je crois. Mais il faut dire quand même qu'il y a eu énormément il y a eu énormément de progrès à l'entrée des villages. Ce sont les villages qui beaucoup ont des problèmes. Hein. C'est une route principale qui traverse le village et effectivement des vitesses qui sont excessives. Donc l'idée de chicane est plus intéressante que ce que vous appelez le gendarme couché, parce que le gendarme couché est souvent pose des problèmes de sécurité, notamment la nuit et notamment pour les deux roues motorisées. Donc, mais il y a énormément de choses qui sont faites en ce sens. Et pour ce qui est des radars mobiles en circulation, l'une des annonces faites par le gouvernement début octobre, c'est de confier ces radars à des sociétés privées qui géreront ces radars, les utiliseront, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre n'ont pas forcément le temps d'avoir ce type de mission.
Et ça va exactement à l'encontre de ce que nous proposait cet auditeur, Patrick, très intelligent, parce que justement, si ce sont des sociétés privées, ça va être comme pour les fourrières. Ils vont aller traîner, bien entendu, là où ils sont sûrs de faire du chiffre, plutôt que ce que feraient des gendarmes intelligents, c'est-à-dire d'aller à des endroits dangereux avec leur voiture mobile.
Voilà, ça, effectivement, ce n'est peut-être pas impossible. J'aimerais qu'on aborde un autre aspect. Quand on parle de mortalité sur les routes, on pense évidemment aux jeunes, puisque c'est quand même une partie de la population qui est la première cause de mortalité
chez les 15-24 ans.
Et la plus touchée. Claude, vous aviez un avis très pertinent sur la question, on vous écoute.
Oui, ma question est la suivante. Je voudrais savoir pourquoi on autorise des jeunes permis, qui sont en fait apprentis, ou qui viennent juste d'avoir leur permis, à rouler dans des voitures et à posséder des voitures ultra puissantes, c'est-à-dire genre BMW ou Mercedes. Et en fait, ils ont, du fait de leur jeunesse au volant, ils ont bien des difficultés à maîtriser ce genre de véhicule. Et avoir tendance à rouler très très vite, y compris en ville. On en voit très souvent.
Et de fait, Eric, de comment regarder les démotards, on peut pas démarrer avec une énorme cylindrée. Vous pouvez conduire une Porsche à 18 ans
j'allais
et 2 mois.
Le dire. Vous savez, le problème du permis de conduire automobile, ça a été beaucoup amélioré avec la conduite accompagnée. Ça, c'est une idée de génie. C'est une des rares bonnes mesures qu'a pris récemment le gouvernement, puisque maintenant, on la commence à 15 ans, on l'a commencé à 16 ans, on l'étale sur 3 ans. Et on sait que les résultats en matière de sécurité routière sur les premières années de permis, là où les jeunes se tuent le plus, et là où effectivement, M. Salin a tout à fait raison, on a le plus de mortalité pour les jeunes, ces résultats sont très encourageants avec la conduite accompagnée. Donc il y a des progrès. Mais c'est vrai que, ce que disait notre auditeur tout de suite...
Est-ce qu'on doit interdire ?
Vous pouvez effectivement acheter une voiture, enfin vous pouvez conduire la voiture parentale de 200, 300, 400 chevaux le lendemain de votre permis de conduire, ce qui n'est pas possible avec une moto, où vous passez forcément par un certain nombre de stades et de paliers avant de pouvoir utiliser... un gros cube en puissance libre. C'est vrai, il y a une différence.
Il y avait une étude il y a quelques années qui montrait que plus que la puissance, c'est le rapport poids-puissance qui posait problème. Et la voiture familiale, même si elle est un peu puissante, mais qu'elle est très lourde, pose moins un problème de sécurité que la petite GTI comme on l'a connue.
Alors, on a beaucoup parlé de répression ce soir. Quid de la prévention ? Évidemment, c'est majeur comme interrogation. André, nous vous écoutons. Soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir. Merci d'avoir pris mon appel. Alors, on a beaucoup parlé d'accidents là sur la route, et donc en soulignant que c'était essentiellement un problème de comportement. Hein. C'est pas la route qui tue, hein, c'est certainement parce que les gens se comportent mal.
Évidemment.
Et donc on a beaucoup parlé de répression pour faire changer ces comportements. Alors la répression, elle est nécessaire et elle est très efficace. Et moi, je pense pas que les radars ça fasse gagner de l'argent. Je pense plutôt que les morts sur les routes, ça en fait perdre. Donc je pense que les radars, ça fait gagner de l'argent. Ça ne coûte pas d'argent à l'État.
Alors, sur la prévention.
Alors, ce que je voulais dire, c'est que la répression, elle a des limites d'abord. Parce que la majorité, enfin peut-être pas la majorité, mais peut-être 40% des gens se tuent à moins de 5 km de chez eux. Et moi, quand je suis à moins de 5 km de chez moi, je n'ai pas peur du gendarme. La répression, elle n'est pas efficace. Et donc, je pense que la prévention est aussi indispensable. Hein, et la prévention, c'est l'affaire de tous. Hein. On pourrait dire que, finalement, les gens, ils conduisent comme ils vivent. Hein. Et donc, la prévention, c'est l'affaire de l'État, c'est l'affaire des collectivités, des assureurs, des associations, des parents, des bénévoles, des encadrants sportifs, c'est tout le monde peut en parler.
Donc prévention, il faut faire de la prévention, André. Jean-Yves Salin, est-ce qu'on fait assez de prévention ?
Non, on n'en fait pas assez, et monsieur a raison. Il faut absolument avoir les deux choses. La répression, on a une action à court terme, hein, on voit les résultats assez vite. Et la prévention, c'est une action sur le long terme. Ça marche vraiment ensemble. Et on sait aussi que pour faire des actions de prévention, lorsqu'il y a des contrôles importants, on a une écoute de la part des conducteurs qui est plus importante parce qu'ils sont incités à écouter ce qu'on leur dit pour ne pas se faire sanctionner. Mais il n'y a pas suffisamment d'éducation, de prévention, de sensibilisation en France. Il y a très peu de campagnes de communication quand on sait qu'il y a énormément
pourquoi
de causes d'accidents. Parce que les budgets ne sont pas là. Il y a énormément de causes d'accidents. Si vous regardez la vitesse, l'alcool, le téléphone, la fatigue, la distraction, le clignotant. Alors ça, c'est vrai pour les quatre roues, pour les deux roues. Il faudrait avoir des campagnes en permanence vers des publics très ciblés. Et on sait qu'aujourd'hui, une campagne de communication, nous, en tant qu'association, on peut en faire très peu. Et l'État en fait très peu. Et en revanche, on sait aussi, parce qu'on a tendance à dire que la prévention ne marche pas, mais en réalité... Depuis 15 ans, on mène des campagnes de prévention sur le thème du SAM, du capitaine de soirée. C'est une évolution de comportement. C'est une évolution de comportement. Les jeunes, il y a 25 ans, ne pensaient absolument pas à leur retour de soirée. Aujourd'hui, alors que pourtant, dans les soirées, on boit énormément, il y a de plus en plus de jeunes qui ont ce réflexe de penser à leur retour de soirée. Sur la ceinture de sécurité... 30 ans de campagne de communication. Aujourd'hui, quand on met sa ceinture de sécurité, c'est pas parce qu'on a peur d'être contrôlé. C'est parce que c'est devenu un réflexe, on pense que c'est très utile. Donc la prévention, ça marche. Simplement, c'est très long et il faut des moyens également pour mener ces actions.
Une suggestion, parce que je suis entièrement d'accord avec M. Salin sur ce point, et si on utilisait 800 millions de bénéfices des radars pour faire des campagnes de prévention ? Chiche.
C'est hein, ma foi, une très bonne idée.
On pourrait même les donner à la prévention routière, à l'association, pour qu'elle fasse des campagnes intelligentes pour SAM.
Autre question, là, c'est Rodolphe qui nous appelle du Pas-de-Calais. Pourquoi ne pas imposer des stages aux personnes âgées ?
Parce qu'ils votent, les personnes âgées.
Je ne suis pas tout à fait... Bon, ils votent.
Et ils sont majoritaires, et ils vivent de plus en
d'abord,
plus vieux.
Notre société est terrible. Elle n'aime pas les personnes âgées. Bon, si on regarde, encore une fois, les chiffres...
Oui, c'est un peu dur, ça. Mais...
Non, mais écoutez, dès qu'il y a un accident avec une personne âgée, on la montre du doigt et on dit qu'il faudrait lui faire repasser son permis. Il y a, si on regarde, d'une manière statistique, on n'a pas de sur-risque chez les personnes âgées, un tout petit peu à partir de 75 ans, mais il y a souvent des personnes qui s'arrêtent d'elles-mêmes de conduire. Le problème, c'est des personnes qui ont des problèmes neurologiques et qui continuent à conduire. Et là, l'entourage a quand même aussi un rôle à jouer.
Et la visite médicale, qui avait été aussi un projet dans les années 2002-2003, chez les personnes 5 ans, 2 ans, 1 an, en fonction de l'avancée de l'âge, ce qui n'est pas choquant, surprenant. Je veux dire, quand vous pilotez un avion, vous êtes soumis à ce genre de visite médicale régulière. Et elles sont de plus en plus rapprochées en fonction de votre vieillissement, ce qui est normal. Eh bien, ça a été refusé par les pouvoirs publics. Parce que, encore une fois, les personnes âgées votent et il ne faut pas les mécontenter.
Ça changera peut-être. Éric de Caumont, avocat spécialiste du droit des automobilistes, ennemi déclaré des radars. Jean-Yves Salin, délégué général de l'association Prévention Routière. Merci beaucoup à tous les deux.